bien ça dans le crâne. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et prenez-vous ça dans les gencives.
Bonsoir, donc en quête de cinéma, une nouvelle émission sur Radio Galère 88.4 qu'on retrouve aussi en podcast sur dérive.tv.
Mettez-vous bien ça dans le crâne.
Ce soir, on est heureux d'accueillir Primitivi. On est doublement heureux parce qu'en plus Primitivi fête ses 20 ans et que ces 20 ans ne tombent pas à un moment anodin, loin de là. On est le 17 novembre 2018 à Marseille. Marseille, en ce moment, c'est beaucoup la plaine qui est emmurée. C'est aussi les immeubles qui se sont écroulés rue d'Aubagne. Voilà, c'est une actualité assez dure et qui met en colère. Et on est content d'accueillir Primitivi à ce moment-là, parce que Primitivi, depuis 20 ans, fait un gros travail de documenter, avec des reportages, des films, des actions, une réalité urbaine de Marseille, cette ville qu'on aime dans son côté populaire et qui est en train, depuis plusieurs années, de se faire gentrifier de façon ultra-violente. Et ce soir, on est avec Nico, Romain, Thomas et avec aussi de nombreux absents. On va les citer parce qu'on a une pensée pour eux.
Bah oui, on est trois mecs, alors que plutôt plus de filles que de garçons dans Primitivi, mais on peut parler de dire bonjour et saluer Pilar, Sonia, Delphine,
Elfège, Lisa, Sandra,
Amandine, Gaël, Timat, Cécile, désolé si on en oublie, mais ça fait du monde.
Et du monde qui participe beaucoup aux activités de Primitivi, qui a un vrai collectif très actif. Donc on va essayer de dérouler en une heure et demie 20 ans d'existence. Donc ça peut être dense, mais on va essayer de rendre ça joyeux, agréable. Et il y avait la proposition de commencer par un extrait sonore qu'on peut contextualiser.
C'est une des toutes premières archives qu'on a tirées du fond du tiroir il n'y a pas longtemps, à l'occasion de la fête de nos 20 ans là, et qui est une archive sur un direct fait par Primitivi, Pirata TV à ce moment-là, qui faisait du piratage télé sur les ondes hertziennes, en mettant des antennes sur les toits de Marseille.
En quelle année ça c'était alors ?
Et donc là, il s'agit d'un petit extrait d'une émission faite sur Pirata TV en 99.
D'accord. Ok, on va écouter ça pour commencer l'émission. Bonne soirée à vous.
Bienvenue à toi, téléspectateur. Si tu vois ces images, tu es en train d'assister à la première intrusion de Pirata TV sur le réseau hertzien. Pirata TV lutte aux côtés de tous les médias libres indépendants de toute force politique et financière, sans concession aux idéologies et aux pratiques d'exclusion sociale, raciste, xénophobe, homophobe ou sexiste. Pirata TV ne diffuse que des programmes libres, non commerciaux, produits par celles et ceux que les masses médias refusent de laisser parler. Pirata TV ne reconnaît à personne le droit de censurer ou de réguler la parole audiovisuelle. Les moyens de diffusion existent. Pirata TV s'en empare pour le prouver. Pirata TV interviendra chaque fois que la nécessité s'en fera sentir. Es-tu prêt, téléspectateur? Alors ouvre tes yeux et prends garde. Pirata TV ne fait pas de quartier.
Pirata TV, c'est une nouvelle chaîne éphémère à Marseille. Demain à 21h, la coordination permanente des médias libres diffusera 2 heures de programme sur le canal 41 dans le petit secteur de la Plaine et du cours Julien. Une sorte de piratage qui n'intervient pas à un moment anodin. Mardi prochain, l'Assemblée nationale étudie en effet en première lecture le projet de loi sur l'audiovisuel présenté par Catherine Trottmann.
On voudrait que cette loi prévoit et assure l'existence d'un tiers secteur audiovisuel non commercial et non lucratif, comme ça s'est fait dans les années 80 pour les radios libres. Et on voudrait que cette loi donne la possibilité à des structures associatives non commerciales, citoyennes, d'émettre sur le réseau hertzien, ce qui jusqu'à présent est interdit par la loi.
Alors voilà l'extrait qu'on vient d'écouter. Donc c'est vraiment, là, ça exprime la question d'une télé. C'est un des points de départ de Primitv.
Ouais, ben carrément. Pirata TV, c'était une des facettes de Primitv, mais c'était l'envie de faire du piratage télé parce que on était une bande d'étudiants qui sortaient de enfin, pas que d'ailleurs, mais bon voilà. Mais c'était un moment où il y a eu une espèce de souffle qui a fait penser que peut-être. Il allait y avoir des télés associatives comme il y avait eu des radios associatives presque 20 piges avant. Et du coup, il y avait quand même plein de gens qui se bougeaient à Paris, nous à Marseille, des gens à Toulouse, des gens à Nantes. Il y avait cette coordination permanente des médias libres qui a vu le jour. Et là, il y a eu 3 ans jusqu'à ce que ce projet de loi Trottmann-Tasca soit mis aux oubliettes complètement 2 ans après ou 3 ans après. Mais il y a eu un moment où on a cru qu'il allait y avoir des téloches vraiment où on aurait le droit de dire ce qu'on veut, où ça déborderait, ça sortirait un peu du cadre et où on pourrait être diffusé en hertzien. Donc il y a eu quelques opérations. On n'a pas émis, on a émis vraiment sur des trucs de quelques heures ou quelques jours, c'était déjà pas mal d'arriver à faire du contenu pour tout ça ou à diffuser du contenu, mais il y a eu quelques opérations nationales où il y a eu des journées nationales de piratage hertzien où il y avait parfois plusieurs dizaines d'opérations en France où ça piratait et puis ça a communiqué sur le fait de pirater, sur le fait de revendiquer le droit d'émettre, le droit de diffuser des trucs, quoi. Donc on diffusait des choses qu'on faisait nous, on diffusait du court-métrage associatif, des trucs faits avec 3 sous, on diffusait du direct, du micro-trottoir qu'on faisait au marché, dans les bistrots, on diffusait des films militants, enfin plein de trucs comme ça, collés bout à bout, puis avec... du direct fait depuis les toits de Marseille, puisque c'était avec des magnétoscopes, des petites caméras, une petite régie, multicaméra, mais tout ça posé sur un bout de tuile en haut d'un toit avec une petite antenne de diffusion qui permettait de diffuser sur un périmètre de quelques rues autour, mais du coup on s'est retrouvé plusieurs fois au cours jus ou à la plaine où on demandait au bistrot de diffuser pour être sûr qu'il y ait au moins des lieux publics où les gens puissent venir voir les piratages, parce que sinon il fallait qu'ils règlent leur téloche chez eux sur le canal 41 et tout, donc on mettait des affiches dans la rue, mais c'était pas évident. Voilà, donc il y a eu quelques opérations comme ça bien rigolotes. Voilà, c'est bon souvenir de piratage.
Et Primitv s'est construit alors dans ce premier élan là quoi.
Ah ouais, vraiment, ouais, vraiment, c'était presque le... Oui, c'est ça qui a donné vraiment envie d'agir. Et puis, il y a eu des rassemblements nationaux, il y a eu des trucs à Paris, il y avait les gens de Zaléa TV qui étaient avec qui on était très proches, qui nous ont aidés à récupérer ce matos de pirates, là, qu'on ne connaissait pas du tout, nous, carrément un émetteur hertzien qu'on avait acheté en Italie, parce qu'on n'avait pas le droit de les acheter en France. Et ouais, du coup, c'est dans toute cette énergie-là que ça a vu le jour, ouais.
Et après, alors, ça, c'est tout le début de Primitv, c'est resté sur cet élan-là, ou rapidement, primitivisme et transformé, ou qu'est-ce que...
Eh ben, ça a duré 2-3 ans, je pense, pas plus. Je sais plus quand c'était que le projet a été mis aux oubliettes. C'est quand...
En 2002, non ou
Ouais, peut-être 2002, ouais. Je crois que c'est Chirac qui arrive au pouvoir, non? C'est ça, je crois. Putain, je sais même plus trop. Je sais même plus trop comment ça se passe au niveau politique, mais il y a un moment où on se rend compte que... Voilà, c'est mort, quoi. Ça, il va rien se passer.
Il n'y aura pas un tiers secteur.
Il a continué à agir et à bouger en loose day, mais en tout cas, l'idée qu'un tiers secteur audiovisuel légal puisse exister a un peu disparu. Puisse exister légalement sur les chaînes sur le réseau hertzien national. Il y a Zaléa TV qui a mené une expérience qui a duré une année entière où ils se sont installés sur la Tour Eiffel, mais du coup c'était ça avait changé, quoi. Il y avait plus cette possibilité que l'État puisse filer des ronds à des associations pour fabriquer de la télé pirate et que le CSA puisse donner des autorisations d'émettre à des associations, quoi. Ouais.
Alors, primitivisme pose quoi comme à ce moment-là comme question avec cette donne-là ?
Eh ben, primitivisme, de toute façon, c'est très 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 précaire, très 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 bordélique. On n'a pas de locaux, on n'a pas un rond, on n'a pas un centime, donc ça se pose des questions de faire des films, de bouger, de revendiquer, de taper des pieds et de taper dans les murs. Donc c'est un peu punk, hein, comme énergie. On était déjà beaucoup dans des réseaux proches des réseaux squat. On s'est fait héberger dans des squats pratiquement très tôt, quoi. Et il y avait un squat qui s'appelait le Nomad, le Nomadsland, qui est dans le centre d'accueil médical, là, qui est maintenant transformé en galerie de luxe sur le J4, là, la grande, l'accueil sanitaire aux frontières qui avait été squatté. Ça, c'était vraiment dans les premières années. Nous, on s'était fait des bureaux luxueux là-bas, le temps qu'on se fasse virer de là-bas. Mais. Du coup, des petits films courts, des films un peu plus longs, des projections dans la rue. En 2001, Gênes, grosse manifestation à Gênes. Et puis, avec la mort de Carl, qui se finit par la mort de Carlo Giuliani, on monte là-haut, on filme ça et on fait un film long métrage qui s'appelle Don't Clean Up the Blood. C'est ce qui était marqué dans la salle où les flics étaient venus cogner plein de gens, où plein de gens avaient été évacués sur des brancards et tout. Il y avait quelqu'un qui a marqué Don't Clean Up the Blood. Donc voilà, on avait fait ce film là-bas. Et ça, c'est c'est un peu ce type d'énergie qu'il y avait à ce moment-là, d'essayer de garder une archive, d'ouvrir notre gueule, de faire entendre un autre discours par l'audiovisuel, par le cinéma, par la vidéo.
Donc vraiment cette notion de comment l'outil vidéo et l'outil cinéma peut être un outil de lutte et d'expression et d'émancipation, inscrit vraiment à cet endroit-là, alors.
Ouais, carrément. Et puis, l'outil cinéma, et puis rien que le fait... c'était super important ce truc de piratage et de diffusion, parce que rien que le fait de pouvoir l'ouvrir et de trouver des moyens de l'ouvrir, et que ce soit pas les endroits où on nous laissait de la place, de pouvoir ouvrir notre gueule, de pouvoir montrer des choses, diffuser des choses, parce qu'on n'était pas des cinéastes, quoi, on n'avait aucune expérience vraiment d'auteur. Donc il y a eu des petites choses bricolées, il y a eu ce film Don't Clean Up the Blood sur Gênes, il y a eu un film Jamais sans toi, mon toit, qui était un film sur des expulsions de logement. Donc c'était des thématiques qui sont toujours les mêmes qu'aujourd'hui pratiquement. Mais c'est vrai que c'était faire des films, mais c'était aussi pouvoir les diffuser, pouvoir se montrer par le piratage hertzien, par des projections de rue, par du collage mural déjà à l'époque, de poser ce truc de médias libres comme avant tout un droit à la parole et un droit à se faire entendre et aussi à garder une trace déjà, à garder une archive qui ne serait pas celle qu'on voyait dans les masses médias et qu'on avait envie de pouvoir garder des traces de notre vie, des combats, des milieux dans lesquels on était, que ce soit nous qui ayons droit à la parole, quoi, que ce soit pas des gens qui radent, que ce soit pas les journalistes ou le cinéma, les spécialistes qui racontent l'histoire, quoi.
Et ça, c'est quelque chose qui est toujours propre à Primitivi, que vous avez gardé, j'ai l'impression, parce que
il y a un esprit du début qui est complètement resté, ouais, dans Primi, à toutes ces étapes de vie, quoi. Sachant qu'après les années dont parlait Nico, Primitivi, il y a eu des années de haut et de bas avec plus ou moins de monde. Le collectif était plus ou moins large, quoi. Moi, je l'ai rejoint il y a 10 ans. Et à une époque où Nico était un peu seul, vous n'étiez pas très nombreux, quoi, à essayer de se démener, à se jeter partout pour faire des films, des projections thématiques, des projections de rue, etc. Mais l'esprit d'essayer d'être sur, d'occuper le terrain, en fait, cette idée d'occuper le terrain et d'être une télérge de rue, elle existe depuis le début et jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est ça qui est super fort, parce que ça a vécu pendant ces 20 ans avec la même force, quoi. Et donc, moi, quand j'ai rejoint le collectif, là, il y a 10 ans, on a eu une période où on faisait beaucoup de projections de rue aussi, alliées avec des bouffes de rue, des collectifs de gens qui faisaient à bouffer. Et du coup, on se posait de manière assez pirate aussi, toujours sans jamais rien demander, et dans des lieux différents à chaque fois, sans forcément l'annoncer par de la com, mais plutôt de se retrouver à des endroits et surprendre un peu le rythme quotidien de la ville avec une projection de courts-métrages, soit qui venaient de Primitivi, mais aussi de films qu'on allait chercher ailleurs, quoi. Et ça a toujours fait partie de notre identité, quoi, de ouais, vouloir être sur ce terrain-là.
Ouais. D'accord, ok.
Et puis les projets à Lambeau, là.
Ouais.
Ciné-club à l'embobineuse. Ouais, avec des gens de s'allier avec d'autres gens aussi, quoi, tout le temps, avec le coin pour tous, le jardin de Gibraltar, des gens qui essayaient d'ouvrir des lieux, de garder des lieux. Soit les squatteurs, qu'on aimait toujours bien. Il y a eu plusieurs gros squats dans lesquels on a passé beaucoup de temps, au CAT, au Rouet, et puis. Tous ces trucs là de s'allier avec des gens, de participer à des trucs qui rassemblaient pas que des trucs d'images, de vidéos, mais de la bouffe, trucs sur le logement, espèce de festival sur le droit sur le logement, les logements alternatifs, les nomades, un truc sur Cocopelli, ou de comment faire de la bouffe qui soit pas de la bouffe toxique avec laquelle on s'empoisonne et on empoisonne les autres, des trucs vraiment sur le squat, trouver des alliés, quoi.
Mais même sur cette notion de fabrication du cinéma et de la fabrication de la vidéo, il y a un truc qui, enfin, moi je retrouve, ça fait que 2 ans que je suis là, et du coup sur la notion d'auteur, sur le fait que du coup on signe pas les vidéos, tout ça, c'est, enfin, moi, c'est ce qui m'a intéressé en venant là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc où on casse aussi les moyens de production normaux et puis les manières de fabrication et de valorisation de l'auteur par rapport à la création du film, qui existe toujours, quoi, dans ce qui est produit actuellement.
Ouais. Oui, et puis la question aussi que tout est libre, c'est comment on dit ça, libre de droit, ouais, voilà.
Ouais. Pratiquement.
Et toutes ces. Donc ça fait 20 ans que vous accumulez des formes et. Et des archives et des films et
qui s'en va.
Bonne soirée. Et qu'est-ce que vous en faites aussi de ces archives qui un peu retracent à la fois l'histoire de Primitivi, puis aussi d'une certaine manière une histoire de Marseille, de ses luttes et aussi de ce par quoi elle est traversée, quoi.
C'est une question qu'on se pose particulièrement fortement en ce moment. Pour plusieurs raisons, c'est que justement on vient de fêter les 20 ans du collectif, et du coup c'était l'occasion de regarder un petit peu derrière, derrière l'épaule, savoir qu'est-ce qu'il y avait comme bagage, quoi, quelle valise on promenait avec nous. Et puis en même temps, on est dans une actualité à Marseille hyper forte, hyper chargée, qui nous fait penser aussi à des choses qu'on a racontées il y a des années déjà et qui ne changent pas tellement, ou enfin qui étaient déjà des sujets de préoccupation de plein de gens à Marseille, quoi. Le logement, l'habitat, la manière de fabriquer la ville par la municipalité et les pouvoirs publics, quoi. Et la manière dont les habitants ont de se poser en contre de ces politiques-là. Et puis aussi une autre occasion qui était de recevoir un collectif londonien il n'y a pas longtemps, la London Community Video Archive, qui est donc un collectif à Londres qui travaille beaucoup sur ces histoires d'archives des années 60 et 70.
Oui, qui avait été invité par le Marseille Underground Film Festival il n'y a pas longtemps, ouais.
C'est ça, exactement. Et dans le cadre de ce festival, on a eu une soirée de projection, puis une journée de discussion avec les gens de Londres, là. Et leur travail sur les archives, ça nous a questionné aussi vachement. Et donc là, il y a Romain qui est là, qui pourra en parler, mais on essaie de refaire exister ces films qui ont été faits au cours des 20 dernières années, parce que ça retrace vraiment une histoire... de la ville aussi, quoi. Une histoire qui est peu racontée, en tout cas pas par les médias dominants, et qui est hyper importante de faire exister tout le temps, quoi. Enfin, voilà.
C'est-à-dire qu'en voyant ces films de la London Film Archive, ça vous a mis en réflexion par rapport à ça, parce que ces films de la London Archive sont datés de 80-90, c'est ça?
60-80,
mais qu'est-ce que ça vous a construit comme réflexion plus précisément sur le fait de les voir et par rapport à vous?
Alors c'est que ils font tout un travail, enfin on a un peu déblayé le boulot qu'ils font autour des archives, qui est d'aller rechercher des films qui ont été faits par divers collectifs à Londres et autour dans ces années-là, et de les diffuser aujourd'hui. Donc il y a un gros travail de diffusion maintenant, soit via Internet, les réseaux, etc., mais aussi d'aller projeter ces films-là dans les communautés, dans les quartiers où ils ont été réalisés, mais aussi là où se posent aujourd'hui des questions similaires, quoi. Et donc on a eu tout un après-midi d'atelier de discussion, quoi, sur ça, et du coup nous ça, d'en parler, de soulever ces questions-là, ça nous renvoie à nos propres expériences, à celles qu'on croise aussi d'autres collectifs ici à Marseille ou ailleurs, hein. Mais de l'importance en fait de aujourd'hui diffuser, enfin faire un travail de diffusion de ces archives, pas seulement les ranger dans des placards ou dans un DVD qui va traîner dans une... Voilà. Mais de les montrer et d'en parler, de s'en servir comme outil, en fait, pour parler de problématiques...
C'est-à-dire que dans le sens que ces archives, en fait, elles ont eu une actualité, quoi, d'une certaine manière.
Complètement.
Il y a aussi que, du coup, pour cet anniversaire-là, on a fait une fiesta et tout ça, et puis, du coup, on est un peu allé fouiller dans les tiroirs. Chose que... En fait, au quotidien, on trouve même pas le temps de faire, en fait. On trouve même pas le temps de retourner la tête pour voir le chemin tracé derrière. Parce qu'en fait, on est quand même... Bon, d'une part, on a une économie qui est toujours ultra précaire, même si après 15 ans de bons et loyaux services avec zéro pointé, on a demandé un peu des sous ces 2-3 dernières années. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais c'est franchement pas grand-chose, et du coup ça veut dire que tous les gens qui sont à Primitivi, ils vivent de plein d'autres choses, mais certainement pas de Primitivi. Donc en fait, on est dans une économie un peu au jour le jour, quoi. Et puis, de toute façon, on est quand même dans un espèce d'activisme permanent, plus ou moins revendiqué selon les moments, mais que... Enfin, on n'est pas toujours forcément super d'accord, des fois on a l'impression d'être complètement débordé, mais on est quand même dans un espèce d'activisme en faisant des films courts, des films longs, des projections, des machins, des trucs, des collages, répondre à plein de sollicitations de gens qui viennent nous chercher, auxquels on est souvent content de pouvoir dire oui, mais du coup on est dans un rythme un peu effréné tout le temps, Et du coup, c'est rare qu'on ait le temps. Là, ces 20 piges nous donnent un peu l'opportunité de regarder le parcours fait et de se dire, putain, mais quand même, on a une vraie archive, quoi. On a un vrai truc d'une ville de Marseille avec des thématiques qu'on a gardées tout le long de ce temps-là, donc d'une ville qui bouge, qui évolue, mais dont on a une trace de choses, par exemple, qui ont disparu, quoi. Qui n'existent plus, de luttes qui ont été importantes, que nous, on a en tête, on a dans nos cœurs et tout. Voilà, du coup, c'est tout ce matériau archive, on en prend conscience un peu au fur et à mesure, quoi, qui se fabrique, quoi.
Puis, moi qui viens d'arriver à Primitivi, c'est vrai que du coup ça donne envie de faire ressortir ces archives, parce que oui, voilà, il y a vraiment une actualité dans ces archives, et puis quand tu regardes ce que tu tournes au quotidien, en fait tu te rends compte que depuis 20 ans il y a une politique de la ville qui est menée toujours par des mêmes équipes municipales qui n'ont pas changé, et du coup en fait tu te rends compte que c'est la même logique, donc tu retrouves dans des vidéos il y a 20 ans des trucs qui se passent actuellement, quoi, et du coup c'est ça qui donne envie de les faire ressortir pour vraiment montrer qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas logiques, enfin pas dans une logique humaine, quoi, en tout cas.
Et alors comment vous allez vous y prendre? Vous n'avez pas encore décidé de ça, ou ça va être, ça va prendre quelle forme d'inscrire ces archives dans un présent, ou c'est en réflexion peut-être?
C'est en réflexion. Après déjà la base c'est déjà de les trier, de les mettre sur un disque et de nous savoir exactement de bien les ranger, quoi. Et pour déjà les valoriser dans ce qu'on peut faire, c'est-à-dire un site et un Vimeo qui sont accessibles par tous et par le biais d'Internet. Mais après, oui, l'idée, c'est d'essayer de réfléchir à faire une architecture de site Internet qui puisse permettre de s'y retrouver dans ces époques, dans ces thématiques, dans tout ça, un travail qu'on aimerait bien mener, quoi.
Ouais, un peu comme a fait la London Archive, où on peut aller sur leur site et visionner les différentes vidéo, quoi. Mais est-ce qu'on peut...
Mais après, on va voir, je sais pas, je te coupe, mais parce que du coup, là, enfin, moi, j'espère qu'il y aura des films... qu'il y aura un film long-métrage qui sera fait avec tout ce bordel et qui gardera une trace de Marseille et de la plaine des années 2010-2020, quoi. Parce que, par exemple, sur toute la plaine des années 90, où ça a tant bougé, de Hayam, la maison hantée, tout ça et tout, il y a très très peu de choses en fait. Ça n'a pas été filmé, il y a très peu de traces. Moi je le regrette parce que c'est un quartier dans lequel moi j'ai vraiment l'impression de... J'aimerais bien qu'elle existe, cette trace, elle n'existe pas. Bon, nous en tout cas, on peut se dire que sur. Toutes les bagarres autour du logement et de l'habitat et de la fabrication de la ville qu'il y a eu à la plaine dans les années 2010-2020, on aurait de quoi faire, de garder une vraie trace de ça, quoi.
Voilà. Et surtout, après, je sais pas, je connais pas très très bien l'histoire, mais la question de la gentrification de Marseille, c'est assez accéléré à partir des années 2000, même si elle existe depuis un certain temps, ou en tout cas, est-ce qu'on peut dire quelque chose de cet ordre-là avec vous, cette histoire de présence sur la plaine, avec votre activisme cinématographique et les traces que vous avez gardées, quoi?
Bah ouais, je pense, ouais. Non, je pense qu'on peut le dire. Après,
c'est avant, okay, c'est avant 2013, quoi.
Tu vois, la semaine prochaine, on passe Main basse sur la ville, film de 1963 qui se passe à Naples. La gentrification, enfin je sais pas, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais le fait qu'il y ait des quartiers populaires qui se fassent vider de leurs habitants parce que les promoteurs veulent y faire venir des populations plus riches et qu'en collusion avec la classe politique, ils laissent pourrir des quartiers de centre-ville comme ça, ça date pas d'hier, quoi. Après, on a mis ce mot gentrification et tout. Et puis c'est vrai qu'on a l'impression que ça s'accélère, qu'aujourd'hui dans les villes françaises, il y en a plein où il n'y a plus de quartiers populaires et de mixité sociale réelle dans les centres-villes, quoi. À Paris, à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux. l'impression que ça existe beaucoup moins qu'à Marseille, quoi.
Je pense que c'est pas une impression, je pense que c'est une réalité, quoi. Les classes populaires, elles sont vraiment poussées à l'extérieur et la ville de demain, en tout cas, c'est vraiment une ville qui va être technocratique, quoi. Ça, c'est... Ouais.
Et d'ailleurs, ça nous permet de continuer dans l'émission, parce que là, on va écouter un extrait sonore d'un film qui a été produit par Primitivi, La fête est finie, de Nico. Et ce film, bah, l'extrait va peut-être en dire des choses. Je ne l'ai pas écouté, je vais le découvrir avec vous. Mais en tout cas, il s'intéresse beaucoup à la question de 2013, et de 2013 comme une figure du cheval de Troie au vu de toutes ces questions qu'on vient d'évoquer.
Il faut savoir que donc Euroméditerranée doit faire arriver Marseille dans la catégorie 3 ou 4, je crois, du classement des villes européennes.
3 ou 4.
Oui, en fait, elle était à la 28e place, elle passe à la 22e, il faut qu'elle me remonte encore. Donc, pour rassurer les investisseurs privés, il faut offrir une image de la ville pacifiée, j'ai envie de dire, et qui correspond aux critères voilà, des villes européennes. Voilà. C'est vraiment le type d'architecture qu'on voit partout maintenant dans les grandes villes européennes. Alors que si on se retourne, on a encore un petit bout du passé de ce quartier qui va bientôt disparaître. Voilà, tout ça, c'était l'arrière-port. C'était des bâtiments qui étaient liés à l'activité industrielle, juste à côté. Donc ça, ça va être détruit, par exemple. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde pas du patrimoine, du souvenir d'autrefois? Et voilà, c'est des questions qui se posent. Oui. Ah, on devine hein, ce qui va rester, ce qui va pas rester. Hein.
Finalement, le simulacre d'une humanité rassemblée autour de l'édification collective de la cité proclamait la disparition du peuple et son remplacement en trompe-l'œil par une foule de spectateurs, figurant inconscient d'une opération de communication pour la ville nouvelle en devenir, comme on vend un appartement témoin pour un programme immobilier pas encore sorti de terre.
Voilà, c'était un extrait du film La fête est finie, qui a été distribué en salle de façon assez alternative, on va dire, par un collectif marseillais 360 degrés, et même plus, d'ailleurs, un collectif dont Primitivi est assez proche. Ce film, il s'inscrit comment, là, dans Primitivi, dans tout ce qu'on vient d'évoquer, et vers quoi il nous emmène?
Eh ben, il s'inscrit à un moment où de creux, en fait, un moment un peu de creux dans Primitivi, je pense, et un moment où un peu dur à vivre à Marseille au niveau du ressenti de ce qui nous arrivait dans la gueule avec ce Marseille 2013, capitale de la culture, cette espèce de grosse grosse artillerie qui nous arrivait dessus et où c'était si dur de dire quelque chose sur ce qu'on avait l'impression qui se passait sans paraître être vraiment les rabat-joie, les réactionnaires qui n'aiment pas la culture et qui n'aiment pas la fête et qui font que râler, vraiment les peines à jouir de Marseille, quoi. Et du coup, bah, y a ce film qui est né en se disant que c'était pas possible de faire, de dire quelque chose sur Marseille, capitale de la culture, en quelques minutes, c'était pas possible. Parce qu'à chaque fois qu'on essayait, ça faisait des trucs, avec des petites manifs qui disaient que Marseille, capitale de la culture. c'était naze, que ça servait à accélérer des processus de transformation urbaine, de gentrification, de modification de quartier où on allait chasser des gens. Et du coup, l'envie de trouver une autre forme de film que les vidéotracts, c'est pas du tout péjoratif, hein, je les revendique complètement, les façons de faire des petits films un peu coup de poing à rentre dedans, slogans, vidéotracts et tout, qu'on a fait avant ce film. Mais là, sur ce film, d'essayer de trouver une autre façon de parler, de dire les choses, en réfléchissant un peu plus à ce qui se faisait, en utilisant cette parabole du cheval de Troie qui arrive et en essayant de la décliner... en collant des affiches sur les murs et en se filmant en train de le faire, en faisant dire des bouts de texte à des gens dans la rue, tout ça. Et puis du coup, le film, bah, il a eu un vrai succès complètement inattendu, parce qu'il a, pareil, il a été fait avec zéro pointé, rien, avec des bouts de ficelle et tout ça. Et puis il a eu un succès public qui a fait qu'il a pas mal tourné, que les copines de 360 degrés et même plus ont décidé de nous filer la main, de sortir ce film... du trou d'où il aurait pu ne jamais sortir, et puis elles ont quand même vraiment permis qu'il soit diffusé, qu'il tourne, qu'il soit distribué dans des vrais cinoches, dans des réseaux pareil de squats, de trucs militants qu'on connaissait un peu, mais par contre nous les réseaux de distribution de cinéma, de tout ça, on n'y connaissait rien du tout. Donc il a eu une vraie vie, et c'est vrai qu'il a quand même donner un élan aussi à Primitivi, parce que ça nous a donné la pêche qu'il est cette diffusion là et ce succès là, et puis ça a donné à plein de gens l'envie de nous rejoindre aussi. Donc c'est vrai que ça a donné un vrai élan. On s'est retrouvé, on était 3-4 à Primitivi, on s'est retrouvé à une bonne dizaine à partir de là un peu quand même.
Comme un trou qui a permis une forme de renaissance, alors un peu, c'est un peu l'histoire du phénix, ça.
C'est vrai que c'était un moment hyper charnière de ces dernières années là, parce que c'est beaucoup. Nico a vraiment porté ce projet de film sur le dos, assez seul pendant un moment, parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup d'énergie dans le collectif à ce moment-là, et que suite à tout ce qu'évoquait Nico, on s'est aussi dit, à la fois il y avait des gens, comme il disait, qui exprimaient l'envie de nous rejoindre, de faire quelque chose avec Primitivi, et donc ça a donné aussi une visibilité à Primitivi, enfin, ou des gens qui connaissaient le collectif depuis longtemps mais qui se sont dit tiens, on a envie de faire des choses avec eux. Mais aussi on s'est dit, ça a correspondu avec un moment où on s'est dit qu'on avait envie de donner une cohérence à toutes les actions très diverses qu'on menait, parce qu'on faisait, on l'a évoqué plusieurs fois, mais à la fois des petits films, plein de projections, des collages de rue,
des ateliers,
des ateliers, ouais, ou enfin des temps avec de transmission, ouais, voilà. Et tout ça, et plein de choses différentes en fait. Et de là, on s'est dit, mais en fait, tout ça va dans un sens global, qui est une parole qu'on porte et qu'on a envie de rendre cohérente et pertinente. Et de là, on s'est dit, ben, on va réfléchir au gros mot du projet, mais à quelque chose qui donne sens à tout ça. Et donc, et ça a aussi correspondu à un moment où on a eu l'opportunité, où il y a eu un appel à projet et un fonds de financement qui a été créé par le ministère de la Culture. Et du coup, on a demandé une sub à ce moment-là, qu'on a eue. Et voilà, ça a lancé un petit peu une nouvelle étape dans la vie de Primitivi, celle d'essayer de réfléchir plus à long terme aussi, de mener des projets plus ambitieux, de réfléchir un peu à plusieurs sur des méthodes de fonctionnement, d'action, et du coup aussi tout un fonctionnement plus associatif entre guillemets, mais de s'organiser dans, ouais,
se donner les moyens d'aller un peu plus au fond des formes du travail que vous menez à cet endroit là quoi.
Ouais. Et donc de là on a imaginé quelque chose qu'on a appelé le doctorat sauvage en médias libres pour raisonner avec pour se la péter un peu et pour faire coucou à nos copains d'Échelle Inconnue à Rouen, qui est un collectif d'architectes qui avait, eux, créé le doctorat sauvage en architecture quelques années auparavant. Et du coup, de là, avec notre doctorat sauvage, on s'est retrouvés avec plein d'idées et plein d'envies. Et ça s'est transformé en quelque chose qui est une réflexion ouverte, qu'on veut ouverte à l'extérieur, pas qu'en interne à Primitivi, ni entre gens qui font de l'image, du film, du cinéma, mais qui soit ouverte à plein de gens curieux. Une réflexion sur nos pratiques de médias, sur la fabrication de l'image, sur comment on s'y prend pour faire des films, pour les diffuser, comment on bosse ensemble. Et de là, on organise des rencontres assez régulières. Ça date de 2015. Et depuis donc 3 ans, on organise ces rencontres-là, je sais pas, 3-4 par an, ou autour de thèmes où il y a souvent des intervenants qui viennent parler d'expériences vécues, soit ils viennent d'autres endroits, d'autres temps, parce qu'ils viennent parler d'une expérience passée, quoi.
Ouais, ça a été vous avez invité des collectifs comme le collectif Mohamed, vous avez aussi invité des cinéastes, vous avez...
Oui, et puis parler de formes et de manières de faire du cinéma qui nous questionnent, nous, et que sur lesquelles on a envie qu'on a envie de creuser un petit peu pour expérimenter nous-mêmes des choses ou les mettre, les inclure un petit peu dans nos manières de faire des films, quoi. Donc on a parlé de comment produire un cinéma de combat autour de l'activité des newsreels sur lequel travaille Ivora Cusac de 360 degrés et même plus. On a projeté la commune de Peter Watkins, qui a lancé tout un projet dont on parlera plus tard, mais tout un projet de film de réalisation collective dans Primitivi. Voilà.
On a fait venir Télé Tambores et Thierry Deron du Venezuela, qu'on suit depuis longtemps, et qui fait un travail de télévision de rue. Qu'on aime beaucoup, qui est un vrai théoricien en plus, donc qui nous a fait des cours pratiquement sur un cinéma et une télévision révolutionnaire qui aide à s'y retrouver dans nos vies, dans nos combats, qui donne envie de vivre ensemble, de lutter ensemble, de changer la société, tout ça. Enfin,
et ça s'inscrit aussi, toute cette façon de faire le doctorat sauvage, s'inscrit aussi dans quelque chose qu'on pourrait nommer une forme d'éducation populaire aussi, j'ai l'impression du...
Ouais, tout à fait, en tout cas c'est ce qu'on aimerait, quoi. Même si, en fait, on aimerait bien avoir bien plus de force de frappe, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est retrouvé sur tous ces temps qui étaient vraiment géniaux, mais on s'est retrouvé à quelques personnes ou quelques dizaines de personnes parce qu'on n'a pas les moyens techniques et tout de diffuser ça. Mais ces rendez-vous qu'il y a eu, on aurait pu les faire 10 fois pour les montrer à plein de gens différents parce que c'était vraiment super, super fort, quoi.
Ouais.
Donc, non, mais je veux dire, c'est une de nos... C'est un de nos regrets permanents, c'est qu'on aimerait bien pouvoir faire plus d'éducation populaire, c'est-à-dire on aimerait bien pouvoir former des gens, on aimerait bien... Mais déjà, nous, on se forme, nous, en fait, avec ce
oui,
truc.
Oui, et puis vous formez quand même des gens, là, depuis ouais, là, ouais, ces ouais. 3-4 ans, il y a quand même pas mal de gens qui vous ont rejoint, et il y a quand même cette question d'une formation qui se fait sur le tas, parce que vous avez une pratique où, assez facilement, quelqu'un peut prendre la caméra, le son, et aller documenter une lutte ou quelque chose comme ça, quoi. Même si elle n'est pas inscrite dans un... doctorat sauvage, mais...
Non, mais c'est le plus ouvert possible et tout, mais je sais pas, du coup, là, Thierry nous envoie des news de Terra TV, là, son nouveau projet, ou de... je me souviens même plus comment ça s'appelle, là, de Les Placités, l'école populaire de latino-americana de ciné et télévision, son école populaire. Lui, il se retrouve avec des étudiants, quoi. Enfin, avec des dizaines d'étudiants, où il, tu vois, je veux dire, il se retrouve avec une année où il est... où il a plusieurs dizaines d'étudiants à qui il va pouvoir transmettre ça, donner des envies, donner des outils techniques et tout. Nous, on aimerait bien avoir cette force de frappe-là. Pour le moment, on ne l'a pas, quoi.
Tu penses que c'est vraiment la question d'une force de frappe uniquement? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose où... je sais pas, je vois à Marseille, y a tellement une profusion de propositions, d'activités, de choses que bon, bah, la force de frappe pour inviter les gens, elle est réelle, mais il y a aussi tellement de choses que tu as une tendance à... Bah, on se noie dans tout ce qu'il y a à faire et qui peut être intéressant, et que souvent, même dans nos divers collectifs, bah, c'est pas évident de ramener les gens, parce qu'il y a une intensité de lutte, comme tu disais au départ, qui est assez intense, quoi.
Ouais, peut-être, ouais.
J'ai l'impression peut-être, qu'il y a aussi
mais,
ça.
Mais tu vois, si on avait... Par exemple, nous, on peut pas... toujours pour ces histoires de précarité et aussi d'activisme, qu'on veut continuer à faire des petits films comme ça, de « Ah, bah tiens, là, je prends la caméra, c'était pas prévu, mais je prends la caméra, on va filmer, puis on va faire un montage, faut qu'on le publie rapidement et tout. » On a envie de garder cette spontanéité-là, mais du coup, on a du mal aussi à s'ancrer dans des projets qui pourraient faire bosser 5 personnes à temps plein pendant 3 ans, de monter ce travail-là, quoi, d'aller... Trouver 50 stagiaires par an que ça intéresse de suivre des trucs et puis de construire les programmes, de les faire suivre, de fabriquer des films avec eux et tout. Enfin, nous, à chaque fois qu'on fait un truc du doctorat sauvage, on a l'impression qu'on lance des pistes pour bosser à 5 à temps plein pendant un an, quoi. Et voilà, du coup.
Mais donc, ça pose aussi la question de l'économie de production et de fabrication que tu évoquais là, que dans ce nouvel élan qu'il y a eu, il y a eu des possibilités économiques qui sont offertes à Prix TV, mais qu'après, tu as une réalité de l'économie pour un collectif de cinéma, de lutte, de documentaire sur des réalités sociales qui est, à notre époque, de plus en plus difficile de trouver des financements. J'ai l'impression que ça aussi, c'est un élément à évoquer, quoi. Que sans financement, ben c'est dur de faire quelque chose pérenne, même si t'en as, et trouver des financements à notre époque sur ce que vous êtes en train de faire, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très compliqué, quoi.
Ce qui est vraiment triste, c'est que du coup, sans cette économie, ça te permet pas de donner plus de ton temps, et du coup, ça te permet pas de dire à d'autres gens de venir aider aussi, parce que du coup, après, les gens, faut leur parler, faut leur expliquer où sont les choses, enfin... prendre du temps avec eux, et du coup ce temps-là en fait on l'a pas, donc c'est hyper dur de faire venir d'autres gens qui sont plutôt motivés autour, quoi.
Ouais, bah c'est clair, mais aussi je pense que ce que ça raconte derrière, c'est que en France, et puis comment c'est ailleurs, mais c'est, en tout cas c'est... Ouais, il n'y a pas beaucoup de... Les institutions sont pas friands forcément de ce que vous proposez, ou que ce soit des institutions diverses et variées, DREC, Conseil Général, il n'y a pas beaucoup de créneaux pour proposer des financements à cet endroit-là, quoi.
Mais en plus, nous, on cherche pas, on aime pas ça, on s'en fout. Puis en plus, pendant longtemps, on a revendiqué de faire avec rien. Là, après, y a eu un fonds de soutien pour des médias d'information sociale et de proximité qui s'est monté après les attentats de Charlie Hebdo. Fonds de soutien pour des médias d'information sociale et de proximité, quoi. On avait l'impression que le truc, ils l'avaient écrit pour nous, qu'ils avaient dit, tiens, on va regarder Primitive, on va lancer un appel pour exactement ce qu'ils font. Donc en fait, on a répondu. Mais sinon, on n'a pas... du tout dans la pratique, dans l'envie de répondre à des appels d'offres, d'aller chercher du pognon pour...
Ouais, ça met dans un engrenage, surtout en France, où la lourdeur administrative peut être refroidissante après avoir reçu 5000 euros, les rendus de compte. On se demande un travail en soi et presque de salarié chaque fois, quelqu'un, quoi. D'accord.
Du coup, ce truc de pas avoir de... Moi, je trouve que ça pose des questions sur le court terme, en fait. Le court terme qui est douloureux, parce que ça permet pas, on s'y confronte, ça fait longtemps qu'on le dit et tout, mais on se confronte à ce court terme où on a du mal à lancer des trucs sur du long terme, parce que pour lancer des trucs sur le long terme, il faudrait pouvoir être posé, être sûr qu'on va pouvoir qu'on va être peinard pour vivre, même au niveau locaux, loyer. Enfin, nous, on paye un petit loyer, mais tu vois, on est plutôt hébergé chez des collègues qui nous ont accueillis là, on paye pas cher et tout, mais ce court terme là il structure vachement notre action aussi.
Votre façon de travailler, tu veux dire?
Ouais. Et en même temps, moi, je le revendique... Enfin, en même temps, je trouve que c'est aussi... Enfin, c'est très, représentatif de notre action, de notre façon de travailler, et même de nos productions, je crois. Et en même temps, moi, j'arrive pas à me dire que c'est que... Enfin, je trouve que c'est bien aussi de pas le prendre que comme un truc négatif, parce que ça donne une espèce de spontanéité et de possibilité que quand tu dois écrire un film, aller chercher des ronds pour le faire, le tourner, tout ça, tu te retrouves dans un espèce de long terme comme ça qui est aussi un autre rapport à la réalité, quoi.
Et puis, il y a un nombrilisme qui est costaud, quoi. Je veux dire, quand tu fais des films, on te demande de vendre toi-même, quoi. Je veux dire, tes références, ta famille, d'où tu viens. Enfin, c'est ça, le cinéma.
Cinéma d'auteur.
Le cinéma d'auteur, voilà.
Alors, on arrive à peu près à...
Je peux rajouter...
Ouais, bien sûr, excuse-moi.
Non, mais c'est que... Donc, on posait ces trucs-là, mais je crois qu'un des grands enjeux sur lequel on est... Enfin, qu'on débat depuis ces 3 ans où on a quelques sous pour arriver à faire un petit peu plus et autrement qu'on faisait avant, mais pas assez pour faire complètement ce qu'on veut, et en même temps, bon, voilà, et en même temps avec cette volonté de garder la spontanéité, l'activisme et tout, c'est qu'on essaye de mener les deux choses de front, en fait, de à la fois d'être toujours dans l'action, la spontanéité, le fait de pouvoir sortir des trucs très rapidement et d'être sur le terrain, et de penser, de mener une réflexion, d'apporter de la théorie dans tout ça et de la pratique dans la théorie, etc., etc. Et je crois que c'est à la fois difficile d'avoir ces questionnements-là, et ça pose des conflits des fois internes, des fois pour les mêmes personnes ça pose des contradictions un peu fortes, quoi. Mais on s'en sort, j'ai l'impression, ça se construit, quoi, petit à petit, sans forcément qu'on aille vers quelque chose de bien mieux par la suite, mais on arrive à fabriquer des choses avec tout ça, quoi. Par exemple, le doctorat sauvage, ça nous a permis aussi d'avancer vachement, d'aller rencontrer des gens partout, en termes de réseau et tout ça, d'élargir, d'aller nous rendre dans d'autres villes pour rencontrer des gens et tout. Et donc, ça... Tout ça, c'est hyper riche aussi, quoi.
Et puis je pense que là, on va arriver à la moitié de l'émission, donc on va se mettre un petit morceau de musique pour respirer. Et puis dans la deuxième partie, on va attaquer un peu ces questions qu'on vient d'évoquer. Là, ces projets qui sont un peu plus des projets sur le long terme, des projets qui s'inscrivent un peu plus aussi dans la question du présent de la lutte sur le long terme. Et par rapport à ce que tu disais, Nico, moi, je trouve que c'est assez impressionnant, ouais, comment vous arrivez à bricoler des petites choses au quotidien, des documents de lutte, et puis à la fois aussi à inscrire des formes d'expression documentaire, de fiction, sur la question du long terme aussi, quoi. Je trouve qu'à cet endroit-là, vous êtes, même si ça se trouve sûrement que vous devez en chier. Mais bon, on va se mettre un petit bout de musique, et après on enchaînera sur la deuxième partie de l'émission.
خمم بالحرقة في بالي زعما نحرق ولا لا عايش في الدنيا زوالي نبكي والدمعة سيلة زعما نحرق ولا لا وي ولا لا زعما نحرق ولا لا وي ولا لا قالوا لي يتريق كرومة غادي تلقى ولاد الحومة يبيعوا في سلعة مسمومة قالوا لي الشمة قتالة مخلي العزوزة تكردي شكون لي دفيني في بردي يحبوني نحوس بفردي جينا في حكومة نشالة رئيس يستنى في فلوكة والعمر منا مسروكة خلينا الحومة متروكة وولاد الحومة مسالة فيقرا كذبه الحلمة سمحي طالب منك يما شديت طريقي في الظلمة مع صحابي وجملة رجالة خمم بالحرقة في بالي زعما نحرق ولا لا عايش في الدنيا زوالي نبكي والدمعة سيالة زعما نحرق ولا لا وي ولا لا زعما نحرق ولا لا وي ولا لا راقد متحير في نومي يا الرومي يا بلاد الرومي
حقروني ما لقيتش سومي والرجلة سوق ودلالة مكتوب مسطر من ربي نحب نعبي نحب نخبي واللي قالت لي يا حبي طلعت شهالة بدالة في بلادي عايش براني شوف الحومة واش دعاني ونجيب فريخ ألماني حب نبدل السلالة قالوا باريس وميلانو فراري والفراغامو وتسمع كلمة تيامو وتشاو بيلو وتشاو بيلا خمم بالحرقة في بالي زعما نحرق ولا ليلا عايش في الدنيا زوالي نبكي والدمعة سيالة زعما نحرق ولا ليلا وي ولا ليلا زعما نحرق ولا ليلا وي ولا ليلا العمر يجري وانا نجري سوق مرش نبيع ونشري ملقيتش حبي في فرشي ضايع وقتي في المونجيلا في الحومة عايش سومالي وحد مسئل على حالي لبس اللمي مالغالي يسي مرضينا بسبيلا قالوا علينا حومة عربي كبرنا في بتاحي وفي قربي وحربي في بلاد الغربي وقالوا علينا همالة في البحر شديت ذنية بنشق الموج لي داير بيا خايف نغرق يا الغالية إذا علي مضحي على جيلة خمم بالحرقة في بالي زعما نحرق ولا ليلة عايش في الدنيا زوالي نبكي والدمعة سيالة زعما نحرق ولا ليلة وي ولا ليلة زعما نحرق ولا ليلة وي ولا ليلة
un morceau d'un rappeur tunisien, Balti, assez connu en Tunisie, et ça nous permet de passer sur le film en cours porté par Primitivi, Marge de manœuvre, un film embarqué en Tunisie.
Qui est en train de préparer un peu notre venue, aussi en lien avec des pêcheurs. Et on est en train de prendre des contacts en Sicile aussi pour pouvoir faire quelque chose sur place, quoi, que ce soit, je ne sais pas encore quoi, une projection, rencontrer les gens qui s'activent avec les personnes exilées en Sicile.
Le bateau, on est dedans parce qu'on l'emmène à Zarzis pour rencontrer ces personnes-là. C'est presque comme une micro-parenthèse de mini-aventure qui se décale de l'objectif initial, mais qui ne peut pas... Il y a une obligation d'existence, parce que c'est comme ça qu'on avance pour aller là-bas, quoi.
L'Italie ramène constamment des Tunisiens de l'Italie. L'Allemagne aussi en fait pareil. Et donc c'était la première phase même de l'externalisation des frontières. Vous savez, la Tunisie ne fait pas d'expulsion. La Tunisie fait ce qu'on appelle une reconduite aux frontières. Donc c'est l'expulsé qui paye son billet d'avion. Et donc quand l'Italie ramenait les migrants subsahariens, ou quand la Tunisie prenait des subsahariens en situation irrégulière et qu'ils n'avaient pas les moyens de payer leur billet d'avion, la police des frontières tunisiennes les reconduisait à la frontière tuniso-libyenne, leur donnait une baguette de pain, une boîte de sardines et leur disait « voici l'Afrique là-bas ». Donc imaginez, et après,
comme les Algériens le font. À la frontière du Maroc, ils les ramènent dans le désert.
Voilà. Et la Tunisie, à un moment donné, après la révolution, ils ont dit non, on ne fait plus ça. Mais en 2016, le 2 décembre 2016, ils ont expulsé 11 migrants dans la nuit. Et parmi ces 11 migrants, il y avait 9 femmes, dont une femme enceinte. Il y avait un Somalien et un Camerounais. Ils les ont envoyés en Algérie. Et il y a 2 des filles qui ont été violées par des militaires algériens. Et l'Algérie, 3 jours plus tard, a pris les gens et les a balancés à la frontière malienne.
Du coup, voilà, bah, on vient d'entendre un extrait du film, du coup, qui a un titre provisoire pour l'instant qui s'appelle Marge de manœuvre. Mais on va peut-être le changer pour le final. Du coup, peut-être je vais revenir un peu sur l'origine du film. Le film, il a été construit en fait par des liens avec l'UNAPO, qui est une association du coup qui fait de la voile pour les gens qui peuvent pas forcément accéder à la voile d'habitude, parce que c'est plutôt un truc de bourgeois entre guillemets. Et donc du coup, voilà, je vais pas résumer ce que c'est que l'UNAPO, mais vous pouvez le découvrir par vous-même. Et voilà, c'est par ces liens entre ces deux associations, Primitivi et l'UNAPO, que le film a émergé. C'est tout d'abord Mathieu Vol qui a commencé par faire un petit film en 2007 sur un cabotage. Il a filmé un peu l'expérience de l'UNAPO en mer. Et il a produit un petit film. Et donc, après, quand l'UNAPO a eu le projet de partir en Tunisie pour faire une rencontre autour de cette question de la migration avec différents collectifs tunisiens et d'ailleurs aussi, en Tunisie, ils se sont dit on a envie que ça soit filmé. Et du coup, ils ont proposé à Primitivi de venir sur le bateau et de participer à cette expérience. Et du coup, avec Mathieu, moi et Mathieu, on est dit, allez, on part, et on est parti sur le bateau. Donc c'est ce qu'on entend au début, on entend des bruits d'eau dans l'extrait, on a fait 15 jours de navigation. Et donc du coup, c'était la première fois que je partais en bateau, donc ça a été une forte expérience pour nous deux, déjà rien que le fait de faire une traversée Marseille-La Tunisie. Et parce que voilà, le bateau c'est hyper prenant, on est remué au début, tu vomis, t'es pris par la houle, t'es 8 sur un bateau, donc tu te marches à moitié dessus, l'autre il vomit dans ta vaisselle quand t'es en train de faire la vaisselle, c'est vraiment le bateau, c'est hyper prenant, et puis t'es au moment tu flippes parce qu'on a déchiré une voile, on a un tronc d'arbre qui est passé à 50 cm du bateau... Donc t'es vraiment dans la peur et en plus t'es pas bien, t'es pris par t'as l'impression d'avoir pris les pires drogues qui existent sur cette terre, t'es vraiment mal quoi. Et du coup direct quand tu vis ce truc, tu te dis mais qu'est-ce que ça doit être de traverser la Méditerranée sur un Zodiac à moitié gonflé avec un moteur qui est en panne, surchargé. Donc je pense qu'on avait tous direct vu qu'on savait que le but de ce voyage c'était d'aller rencontrer ces collectifs qui essayent d'aider ou donner au moins les premières parce que l'UNAPO allait là-bas pour donner des ateliers de sécurité en mer, c'est-à-dire des ateliers qui préparent plutôt les associations qui essayent d'aider sur le terrain les gens qui partent à prévoir un minimum vital pour réaliser la traversée entre la Tunisie, là, pour le coup, et la Sicile en général, ou Lampedusa. Et donc, du coup, c'est donner les premiers réflexes de secours qu'on peut avoir, c'est-à-dire partir avec une boussole, un gilet de sauvetage, un minimum vital pour boire, pour manger. Donc voilà, c'était vraiment ça l'idée à la base de l'UNAPO, c'était d'aller transmettre des informations qu'eux ils avaient de navigateur aux gens qui se déplacent pour alors ça par contre c'est compliqué parce que c'est varié, il y en a c'est juste un voyage, c'était juste un désir de partir, de comme nous on se déplace énormément, on peut partir en Chine, aux États-Unis comme on a envie avec un avion et un coup de tête. Eux des fois c'est juste ça et d'autres c'est vraiment une nécessité de bouger de chez eux parce que c'est trop la merde, avec l'idée peut-être de pouvoir renvoyer des sous dans leur pays, bon bref c'est question compliquée de ce qui se passe actuellement de la migration. Et donc, pour revenir au film, voilà, c'était cette traversée pendant 15 jours. Après, on arrive en Tunisie et on va passer 15 jours sur place. Et on commence par retrouver différents collectifs qui essayent d'apporter une aide à ces gens qui traversent, mais aussi d'autres personnes qui essayent de réfléchir sur comment travailler sur les oppressions qu'ils subissent dans... Bah, là, on a rencontré des gens qui travaillent surtout sur les oppressions qu'ils subissent en Tunisie pour essayer de se dire bah, peut-être que c'est pas la bonne solution de partir et qu'on peut réfléchir ensemble à travailler sur nos oppressions en Tunisie pour créer des choses ensemble et que ça nous donne envie de vivre là... ici et de peut-être partir à un moment mais dans d'autres conditions que dans l'urgence et dans le fait de se dire allez on traverse quoi. Après nous on est arrivé là-bas, on a été très bouleversés, hyper mal de ces premiers jours sur place parce que bah voilà, on a rencontré Chemseddine qui est une personne qui enterre les cadavres qui reviennent sur les côtes, donc on a traversé ce cimetière où il raconte qu'il enterre des bouts de bras, des bouts de corps. On a rencontré des pêcheurs qui nous disent que quand ils vont à la pêche, ils remontent dans leur filet, pareil, des bouts de gens qui ramassent des gens dans la flotte, des femmes enceintes qui accouchent sur leur bateau, enfin que des trucs hyper trash qui est un peu inimaginable de tout ça avec en plus derrière la vision de Frontex qui protège ses frontières et qui permet pas à ces gens de circuler normalement et que du coup bah voilà ces gens traversent dans des conditions vraiment horribles quoi. Donc on est dans un espèce de territoire complètement inhumain, on se demande où est la logique, où est la raison. Et donc on a vécu ces premiers 3 jours vraiment hard. Et après, on a rencontré du coup plutôt des gens qui font du théâtre forum, qui justement, eux, travaillent sur ces oppressions à Tunis. Et après, on a aussi à Tunis re-rencontré les gens d'AlarmPhone, qui est une association qui permet d'avoir un numéro de... pas de sauvetage, mais on les appelle et ça leur permet de vérifier que les bateaux de secours partent bien au secours des gens qui sont au milieu de la Méditerranée, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein d'opérations de secours qui ne se réalisaient tout simplement pas, voilà, par la pression des gouvernements, par plein d'autres questions, mais donc voilà, il y a des gens qui veillent, qui essayent d'aider au maximum, qui essayent d'agir... Donc voilà, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a essayé de prendre comme parole, et puis on a essayé de prendre surtout une parole de non pas de gens qui nous racontent que ce truc trash de la traversée tout ça, mais aussi de gens qui essayent de s'organiser sur place, de gens qui essayent de s'organiser au moment où les gens traversent, de gens qui ont décidé aussi de vivre en Tunisie et de fabriquer des choses en Tunisie qui arrivent aussi de Côte d'Ivoire.
Ouais, et que ça puisse rester un endroit où il y a de l'ouverture et quelque chose de positif, même si dans des endroits comme ça, c'est difficile d'en trouver, quoi.
Bah ouais, mais même sans parler forcément de positif, mais au moins d'aller chercher une parole qui essaye de construire quelque chose, quoi.
Oui, voilà, ouais.
Parce que ça sert à rien au bout d'un moment de raconter le côté trash, on le voit dans les médias traditionnels, tout ça, nous on a essayé voilà, d'attraper une parole qu'on n'entend pas forcément ailleurs, qui est qu'est-ce qu'on construit, comment on s'organise nous entre êtres humains, puisque les États ont décidé de pas agir là-dessus et plutôt d'agir contre et de laisser crever les gens, quoi. C'est clair, net et précis. C'est encore actuellement l'Aquarius, ils essayent de le couler pour une histoire judiciaire à la con. Enfin, c'est vraiment... on sent que les États refusent d'accueillir ces gens et même décident de les tuer, quoi, clairement, quoi.
Et donc le film va un peu documenter toute ce mouvement-là et cette aventure.
Voilà, le film a vraiment, voilà, essaye de se concentrer vraiment sur cette parole. Donc c'est un film très très caméra à l'épaule, avec un son pourri, avec des images avec plein de poussière sur l'objectif, mais parce que on a vécu dans des conditions un peu difficiles, du coup la traversée en bateau avec du sel, de l'eau, donc c'était pas facile de garder le matériel. Donc c'est un film avec très
brut,
très brut, très pauvre. Et qui essaye d'attraper cette parole de gens qui s'organisent sur place et qui essayent de lutter entre eux. Voilà.
Et c'est aussi dans cette perspective, c'est un film aussi qui permet de faire le lien entre entre ici et là-bas sur les questions de lutte.
Voilà, c'était vraiment notre idée de départ, c'est-à-dire déjà c'est une même côte, la Méditerranée, il n'y a même pas de séparation entre ces deux continents, ils sont liés par la terre et il y a juste une mer entre les deux et du coup on se connaît pas bien entre les deux rives alors qu'on a plein d'histoires en commun et du coup comment on s'organise entre les différentes luttes et comment on met en lien ces luttes à travers juste cette petite nappe d'eau qui nous sépare quoi.
Et alors ce film, quand est-ce qu'on aura C'est une question encore délicate.
Non. Alors, on a eu des petits problèmes techniques personnels dans ce film, mais du coup, il est en cours de montage. Pour l'instant, on a des petits soucis de traduction. On espère le sortir pour mars. Voilà, on a fait un petit crowdfunding pour réaliser ce film. On remercie beaucoup les gens qui nous ont soutenus aussi là-dedans. Ça nous a permis aussi d'écrire ce film à travers ce crowdfunding. Et du coup, ça nous a permis de payer un tout petit peu les frais de transport, mais aussi, on espère peut-être un peu de traduction et d'étalonnage et de mixage qui vont arriver normalement sous peu. On espère le sortir vraiment pour mars.
D'accord. Mars 2019. Alors là, un film comme Marge de Manœuvre, c'est un peu quelque chose qui continue cette dynamique qu'a enclenché Primitivi à partir de La Fête est finie, quoi, c'est de s'inscrire dans des démarches un peu de faire des films sur des durées longues, et ça nous amène un peu au gros mastodon, mais qui est aussi lié à l'actualité de Marseille, parce que j'étais en train de me dire, là je pensais à quelque chose, je me disais, mais c'est drôle, parce qu'il y a chaque fois une synchronie, alors c'est peut-être parce que Primitivi existe depuis 20 ans, mais entre ce qui se passe dans Marseille et l'énergie qu'il y a dans Primitivi, quoi, la fête est finie, quelque chose d'assez dur et intense qui se passe à Marseille, et puis quelque chose qui renaît à Primitivi, et puis là, depuis un an et demi, deux ans, cette histoire de la plaine, et puis aussi Primitivi qui est là avec... une tentative de raconter cette lutte de la plaine et en essayant de s'inscrire à un autre endroit pour la raconter, qui n'est plus uniquement du documentaire, mais aussi de se mettre à l'endroit de la fiction pour raconter de cette lutte, tout en essayant d'être synchrone avec le mouvement de cette lutte, qui d'ailleurs reste quelque chose de très compliqué. Mais on va peut-être écouter un petit extrait avant de parler de la bataille... de la plaine.
Radio Galère 88.4.
On vient de recevoir des nouvelles de la lutte contre le projet de rénovation de la place Jean Jaurès, de la place de la Plaine. Alors Gérard Chenoz, qui est donc le président de la Soleam, la société d'aménagement marseillaise et qui est également adjoint au maire, vient d'annoncer qu'il jetait l'éponge. Il a annoncé hier soir en conseil municipal que tout projet était ajourné, mais également que la mairie se désengageait de toute mission de service public sur le quartier. Ça veut dire qu'il se désengage du ramassage des ordures, de l'éclairage public, de la voirie, de l'entretien des espaces verts. S'ils ne veulent pas de nos projets, que les plénards se débrouillent, ça c'est ce que Chenoz déclarait hier soir en conseil municipal, et puis Gaudin qui renchérissait derrière. Je ne veux plus entendre parler de la plaine, et qui annonçait que le quartier serait désormais effacé des cartes de la ville. Et la décision de rayer la plaine de la carte a été mise en application dès ce matin, où les touristes ont eu la surprise de voir sur les cartes à la sortie des métros le périmètre de la plaine détouré en blanc.
Tu es du coin aussi ?
Ouais, moi c'est...
Moi je pensais par ici, tu vois.
Ah oui, c'est pas là, donc
ça fait partie du périmètre sans nom, d'accord.
Ouais, exactement, je deviens en habitant sans nom.
Ah merde, putain, c'est con ça. Bon, donc t'es où tu habites, tu dirais où alors J'habite au quartier, je suis un sans nom, quoi.
Je suis un sans nom, hein.
D'accord.
J'ai plus d'âme, ouais.
Bon, des fois, ouais, sans nom, ouais, c'est vrai. Ouais.
J'habite où ? J'habite par là.
J'habite par là, ouais.
J'habite par là,
dans le secteur,
dans le coin,
ouais. Secteur, ouais.
J'habite dans le coin.
Mais c'est du n'importe quoi. Ils peuvent, bien sûr qu'ils peuvent changer les choses, mais sans changer le quartier. Vous ne pouvez pas changer ni le quartier, ni les gens. Vous ne pouvez pas.
Ce matin-là, les voitures balais ne sont pas passées. Quand je suis descendue au café, tout le monde ne parlait que de ça. Les pouvoirs publics nous ont abandonnés. Plus de ramassage de poubelles, plus de patrouilles de police, les écoles fermées, plus d'administration. Il y a même des rumeurs qui courent comme quoi ils vont couper les retraites, les RS, les CAF, à tous les gens du quartier. Depuis le début, c'est leur stratégie. Laisser pourrir le quartier pour que ceux qui peuvent partent vite et que les autres s'étouffent dans leurs déchets. Ils espèrent que quand on sera tous bien morts, ils pourront raser le quartier pour accomplir leurs rêves, faits de cigales et de touristes qui mangent des glaces, payent de parking souterrain, boivent des bières artisanales et soupirent. Oh, c'est charmant, c'est charmant. Je veux sentir la lavande et acheter des savons.
C'était l'annonce de, de l'abandon du projet de requalification de la place de la Plaine, qui fait partie effectivement du film La bataille de la Plaine qu'on est en train de réaliser en ce moment à Primitivi. Et en fait, c'est un projet de film qui est né suite à la proclamation, à la projection du film La Commune de Peter Watkins en 2016.
Dans le cadre du doctorat sauvage, alors, un peu ?
Exactement, complètement. Et donc, on avait fait une projection, et au lendemain de ça, il y avait eu une demi-journée d'ateliers, discussions, où on était super nombreux, une quarantaine de personnes à discuter sur qu'est-ce que on peut imaginer en termes de récit, et comment on peut imaginer que la fiction peut permettre de déclencher du réel, transformer le réel à partir de la fiction.
Une quarantaine de personnes qui étaient à la fois des gens qui venaient plutôt du monde du cinéma et à la fois des gens qui venaient plutôt qui étaient plutôt des militants de la Plaine, parce que c'était ça qu'on avait essayé de faire. C'était pas un atelier classique de cinéma, c'était dans un truc du doctorat sauvage en médias libres. On avait envie qu'il y ait à la fois des gens cinéma et des gens action politique, quoi.
Et du coup, au terme de cette journée un peu folle, parce qu'on a tous en souvenir une journée hyper dynamique, hyper vivante, chouette, et ben est né un point de départ de scénario de film qui était que le projet de requalification de la Plaine, qui était dont on avait appris la nouvelle quelques mois plus tôt, était abandonné par la mairie et par la Soleam, qui est la société d'aménagement de Marseille, et à partir de là naissait une nouvelle réalité, quoi. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça, une fois que le quartier est abandonné, comment les habitants s'organisent, et c'était le point de départ. Et de là, collectivement, on a décidé, on y va, on le fait, on va réaliser ce film-là. Et donc, c'est ce travail qu'on mène depuis 2 ans et demi à peu près. Et voilà, vas-y Nico, enchaîne.
Non, je veux dire point de départ, pas point de départ de notre relation à la lutte de la Plaine, quoi. C'est point de départ de cette envie d'aller plus loin, mais qui venait se greffer sur un travail de suivi un peu au quotidien de la Plaine, pratiquement depuis le début, depuis très longtemps, mais peut-être depuis 20 ans, non mais j'exagère, mais parce que de toutes les tentatives de résistance au projet de transformation urbaine de la mairie dans le quartier, de l'organisation des habitants en assemblée et tout ça. Donc on avait une action quotidienne de suivre cette activité politique à la Plaine. Et en même temps, on se disait, mais comment on pourrait faire pour ne pas être juste des témoins qui fabriquent cette archive, c'est important, qui font une propagande, j'assume le terme, c'est important, qui aide à documenter pour ceux qui sont pas là, c'est important. Mais on se disait, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer une action de tournage, de production audiovisuelle qui pourrait être active sur le terrain, qui pourrait aider les gens qui pourrait donner une force politique à ce mouvement et tout ça. Donc de là est née cette fiction, quoi. D'accord. Cette envie de fiction, de pouvoir se raccrocher à des mythes anciens, de se raccrocher à la commune. On a écouté cet extrait, mais après, donc dans le film, la commune de la Plaine est proclamée. Donc on a organisé la proclamation de la commune libre de la Plaine sur la Plaine, où sont venues plusieurs dizaines de personnes qui sont venues participé à ce truc. Et donc, et puis on a essayé de faire des projections à plusieurs moments de ce montage pour que ce film, ce soit une tentative un peu expérimentale de narration entre la fiction et la réalité, mais qu'elle revienne régulièrement se confronter à la réalité, se confronter aux gens. Donc on a organisé des projections de bouts de montage, de tentatives, et on continue puisque...
Avec ouais, une dimension aussi, que ça soit quelque chose qui soit collectif, quoi. À la fois dans la fabrication du film, à la fois comment la fabrication du film participe à la construction de la lutte, et comment tout ça circule, quoi. Et vous avez...
Oui, c'est ça. Et puis comment on peut se permettre, à travers de la mise en scène, enfin, un pas de côté fictionnel, on peut se permettre des idées et de partager entre tous ces gens, ceux qui sont spectateurs ou ceux qui sont réalisateurs, ceux qui sont actifs dans cette histoire, d'imaginer autre chose, quoi, d'imaginer quelque chose que nous on porte et que nous on construit ensemble. Et à la fois qu'il soit dans un film, mais pourquoi pas qu'il soit dans la réalité, quoi.
Ouais, donc c'est vraiment un déplacement assez conséquent, parce que c'est cette pratique que vous avez de documenter le réel et comment le réel aussi vous transforme. Là, il y a vraiment l'ouverture de la question de comment l'importance et la nécessité de la question de l'imaginaire dans les luttes et donc dans la vidéo et le cinéma, quoi. Il y a ce pas de côté qui est fait assez conséquent, quoi.
Ouais, et en même temps, voilà, non, mais tu l'as très bien dit, mieux que j'aurais réussi à dire ce que c'était notre enjeu de départ. Et puis, force est de constater que ces dernières semaines, ces derniers mois, on a été rattrapés par la réalité. C'est-à-dire que, sans redire toutes les étapes, mais au début de l'automne, en septembre, on a organisé une projection de Là où on en était du film. Donc qui arrivait après cette proclamation à une organisation du quartier, une lutte avec la mairie, et puis qui finissait un peu de façon très imaginaire et tout ça, mais dans un élan un peu lyrique et révolutionnaire, zazitata. Et puis on s'est fait quand même, il faut le dire, un peu rembarré par des gens qui étaient sur le terrain, comme nous d'ailleurs, on continuait à être sur le terrain, hein, mais qui nous disaient, mais là c'est pas le moment, là pour le moment ce qu'il faut, la lutte en est à un moment où nous on n'a pas le temps de partir dans des envolées lyriques et tout ça, et là il faut continuer à se bagarrer au quotidien de tout ça. Et en fait, enfin, je sais pas, on ne s'est pas vraiment raconté ce qu'on allait raconter ce soir sur ce truc, mais force est de constater que, en fait, là, depuis un mois et demi, deux mois, où la mairie a pris des caps complètement délirants, donc on a construit un mur de béton gigantesque autour de la plaine, où tout dialogue a été complètement coupé et tout, mais nous, on s'est retrouvés face à une urgence médiatique, une urgence de participer à cette lutte, de la documenter, de produire des petits objets de propagande propagande, quoi. Moi, j'assume le terme, quoi. Il fallait pouvoir raconter ce qui se passait à ceux qui sont pas là, poser un discours sur ce que la mairie est en train de faire, et tout ça. Et du coup, on a pratiquement abandonné notre... j'espère que temporairement, mais on a été obligé de lâcher notre récit fictionnel parce qu'on n'arrivait plus à le faire rentrer dans la réalité, quoi. Et du coup,
Est-ce que c'est parce que... Ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que c'est parce que la réalité de la lutte prenait du temps, ou est-ce que c'est parce qu'à un moment, la réalité devient plus forte que la fiction, parce que ça devient presque une fiction, la réalité, quoi. Tellement elle en est.
Est-ce que on écoute un extrait sonore et puis
on écoute un extrait sonore.
Allez, monsieur, on va vous demander de vous écarter, s'il vous plaît.
De m'écarter où ?
Reculez, s'il vous plaît.
La solution qui a été retenue consiste à ériger une palissade sur une hauteur suffisante
pour éviter les intrusions et d'une solidité également suffisante pour ne pas être trop facilement détériorée. C'est la solution optimale pour garantir l'apaisement nécessaire au démarrage de ce chantier.
On a envie d'une concertation, d'une expérimentation urbaine. Ils nous mettent des murs de 2,50 m de haut comme réponse, quoi. Donc bon, ça parle bien quand même de leur vision du monde, quoi, de leur monde, quoi. C'est ça va être la place bloquée avec des murs de 2,50 m de haut. Alors que c'est le plus grand espace public de Marseille, que c'est le cœur du quartier. Bah...
Ces murs, c'est juste, on ne veut pas discuter. C'est vraiment, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de concertation, il n'y en aura jamais. Les murs, c'est un peu dire qu'il n'y a pas de discussion possible. On impose ce qu'on a à faire. Voilà. Et contre, bien sûr, des violents, des gens violents qui sont aussi des habitants, des jeunes et des moins jeunes. Mais pour eux, c'est stigmatiser une population, à mon avis.
Entre ici, concertation municipale. Avec ton terrible cortège, avec tous les mensonges, toutes les calomnies de la Soléa.
C'est l'extrait là, parce que ça représente un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on se... Dans notre idée de raconter l'histoire autrement, de se permettre des possibles, etc., on s'est un peu pris un mur en pleine face, quoi. Et la violence de la réaction municipale et policière, elle dépasse en fait la fiction que c'est une forme de réalité qui stoppe brutalement la fiction qu'on s'était imaginée, si tu veux. Et enfin, à l'état actuel, hein, elle va reprendre, mais est-ce que face à cette réalité si brûlante là aujourd'hui, on a du mal à encore imaginer, si tu veux, un autre possible. C'est un peu une question dans laquelle on est en ce moment avec ce film là, quoi.
Mais à la fois, moi je trouve que c'est une question qui est vachement intéressante et qui est presque inévitable. Moi, ça me fait penser à une citation d'un poète algérien de langue française qui s'appelle Kateb Yassine. Et je trouve que Kateb Yassine, il racontait quelque chose de très intéressant dans une citation là, et qui pour moi parle un peu de là où vous êtes, quoi. Il disait en moi, le poète combat le militant et le militant combat le poète. Et ce qu'il essayait d'évoquer, il disait que c'était deux choses qui étaient très difficilement réconciliables et qu'on ne pouvait pas faire les deux choses en même temps. Qu'il y avait un temps pour militer, et puis qu'il y avait un temps pour faire la poésie, qu'il fallait l'accepter, quoi. Et que moi, j'ai l'impression que ce que ça raconte, c'est que là, la réalité, elle est tellement forte, au-delà de la question de fiction ou pas, que vous avez pas le choix de vous y consacrer, mais qu'en rien, ça n'empêche de reprendre la fiction et peut-être le côté un peu plus onirique, poétique, plus tard, mais que c'est trop schizophrène d'essayer de donner une réponse à ça maintenant, qu'il faut accepter de décaler ces deux choses, quoi, j'ai l'impression, quoi. Il y a un truc comme ça, quoi.
Bah, à fond, on en est là complètement aujourd'hui. C'est-à-dire que là, ce projet de film, La Bataille de la Plaine, on n'arrive plus à y toucher. Et je pense qu'on est un peu à se dire qu'il est un peu remis à plus tard, dans cette idée-là, quoi. Là, on est dans une forme d'urgence et de quotidienneté qui fait que effectivement, on ne peut pas être sur ces deux terrains à la fois, quoi.
Ben non, ouais. Et puis j'imagine que ça peut être dur, parce que surtout comme on a évoqué, quand on fait des projets où on est précaire et qui durent longtemps, il y a toujours le risque de la question de l'épuisement, mais bon, ben à la fois, j'ai l'impression que c'est l'histoire de Primitivé aussi, quoi, de d'où elle vient, de qu'est-ce qu'elle a construit, et qu'à un moment on peut pas...
C'est ouf, parce que quand on écoute cet extrait en particulier, qui est hyper... qui est hyper dramatique, quoi. En fait, il y a des pelleteuses, il y a un mec qui dit n'importe quoi, qui parle, on croirait un sketch, Chenoz, qui raconte qu'il pense que c'est vraiment la solution optimum pour fabriquer un quartier pacifié. Enfin, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre. Et après, il y a cette cérémonie d'enterrement de la concertation. Voilà, donc on est dans un truc, effectivement, où on est dans une puissance de la réalité qui nous dépasse. Mais en fait, il faudrait pratiquement qu'il y ait quelqu'un qui nous filme en train de nous poser ces questions autour de la réalité et de la fiction, de la réalité et de la fiction.
En tout cas, là, on arrive à la fin de l'émission, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une réalité qui est extrêmement violente, qui est presque, d'un point de vue de nos individualités et de nos collectifs, c'est tellement violent que c'est de la fiction, même c'est de la science-fiction, et que, Primitivi va continuer à faire ce qu'il fait depuis 20 ans, documenter cette lutte, et puis va continuer à faire ce qu'il fait depuis... quelques années, proposer et réfléchir à d'autres formes audiovisuelles et cinématographiques pour parler de ces questions de lutte avec la question de l'imaginaire. C'est les 20 ans de Primitivi, on est content, on espère que vous avez passé un bon moment. Il y a des rendez-vous qu'on va nommer en décembre, le 8 et 9 décembre, Primitivi est appelé et est invité à la Parole Errante à Montreuil, qui est aussi un haut lieu de militantisme porté par la figure d'Armand Gatti, mais il est mort il y a un an et demi, et des collectifs de lutte essayent de se le réapproprier depuis que les institutions ont décidé de retirer les financements, depuis que la figure tutélaire de Armand Gatti s'est retirée. Et le 14 décembre, les 20 ans...
De tactique, journal gratuit sur le cours Julien, ami de très longue date. Et du coup, en fêtant les 20 ans de tactique, on va rappeler aussi les 20 ans de Primitivi.
Voilà, alors merci à vous.
Un petit coucou et une spéciale dédicace à Manu et à Pam, compagnons de route de Primitivi, qu'on a oublié de citer tout à l'heure dans notre listing du début.
Ben voilà, et puis ben on espère que Primitivi durera encore et qu'on refera une émission pour les 40 ans de Primitivi. Vous étiez sur Radio Galère 88.4 et vous retrouverez l'émission en podcast sur dérive.tv. Bonne soirée. Besaya van lo beto, ademati mi si ulevado, besaya van lo beto, ademati mi si ulevado, besaya van lo beto, 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 carriera mi si uanado, desu la mobile.